Le recrutement est l'acte managérial le plus important. Si tu te plantes dans ton recrutement, bon courage pour faire un bon management. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que si tu avais bien recruté. Or, actuellement, le marché du recrutement est très compliqué pour les entreprises. On dit qu'il est en faveur des candidats. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en faveur des entreprises. Donc, quand je vois passer un game changer, ou plutôt une game changer, dans cette industrie du recrutement, eh bien, je l'invite. Cette personne s'appelle Karine Deville, et elle a inventé une méthode qu'elle a appelée le marketing du recrutement. Mon pari, c'est qu'après cet épisode, tu ne verras plus le recrutement du tout de la même manière, et surtout, tu ne recruteras plus du tout de la même manière. Je suis tellement enthousiaste que je te propose en fin de podcast, dans la conclusion, deux bonus qui vont faire la différence dans ta manière de recruter. Écoute cet épisode, c'est un épisode majeur, et je te donne rendez-vous dans la conclusion pour les bonus. Bon alors, vous inquiétez pas, je sors pas d'une séance d'UV, j'ai juste un problème avec ma caméra, je sais pas ce qui se passe, mais je suis tout orange. Donc ce n'est pas ma couleur réelle, et avec Karine, on a remarqué que si je mettais mon doigt sur ce capteur de la caméra, on avait ma vraie couleur. Donc c'est mon bronzage naturel, et ça, c'est le bronzage donné par ma... Et alors en plus, Karine pensait que c'était à cause de la couleur de mon pull, elle me disait « mais t'as peut-être un t-shirt en dessous ». J'en ai un, mais il est de la même couleur. Donc, soit je fais tout le podcast en mettant le doigt ici, ou soit vous supportez que je sois orange. Et puis, de toute façon, moi, je suis pas très intéressant. Je trouve que Karine est bien plus intéressante à regarder que moi, et aussi, surtout, à écouter. Alors, Karine, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est quoi la grande idée que tu veux nous proposer dans cet épisode?
Ce qu'on va parler, ou ce dont on va parler aujourd'hui, ben c'est de recrutement et plus spécifiquement d'un recrutement, je veux dire d'un autre genre de ce que je peux moi observer sur dans ce qu'on fait dans les agences, etc. Et surtout que ben c'est de s'intéresser réellement aux candidats. Pourquoi? Parce que il y a des années d'ici, ben c'était l'entreprise qui faisait son shopping et pour choisir ses candidats. Et maintenant, ça s'est inversé, c'est-à-dire que ce sont les candidats qui font leur shopping, et donc il va falloir, c'est nécessaire de changer son approche si on veut attirer des candidats et surtout des candidats qualifiés.
C'est clair, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, le marché s'est inversé, et effectivement aujourd'hui, tu sais, nous, par exemple, il y a un truc que je répète souvent, c'est les deux R du management, c'est les résultats et la rétention, et dans le passé, on disait... Bon, ce qu'on veut, c'est obtenir des résultats et pas abîmer trop la rétention. Et aujourd'hui, je dirais, on fait surtout attention à la rétention et en faisant attention à la rétention, on espère avoir des résultats. Donc, Karine, on a remarqué que tu avais un léger accent. Ce que je propose avant qu'on commence avec ma première question, c'est que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un petit peu d'où tu viens, puisque tu fais ce que tu fais dans la vie.
Ok, donc je suis belge, même si avec certaines connaissances françaises, je leur ai déjà fait croire que j'étais canadienne et ça fait marcher, ça me faisait énormément rire. Mais bon, je suis belge, je viens de Wallonie et je sais que dans les outils du manager, il y a beaucoup de Belges qui t'écoutent, donc moi je suis plutôt du côté de Liège, donc et tout le monde connaît la gaufre de Liège de toute manière. Ouais. Donc voilà, je viens de ce coin-là et donc qu'est-ce que je fais, enfin qui je suis, moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est ressources humaines et management, c'est-à-dire que j'ai deux activités. Une première où j'aide des dirigeantes à avoir une équipe proactive et autonome, c'est-à-dire avoir une équipe qui sait travailler, que le dirigeant ou la dirigeante soit là ou non, avec une spécificité qui m'est propre, c'est-à-dire d'utiliser une communication contre-intuitive. Donc, il faut être fou, qu'on dit, pour toujours utiliser les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est de se dire, OK, mais si je faisais l'inverse, est-ce que ça ne fonctionnerait pas mieux? Et c'est de voir, qu'est-ce que ce serait l'inverse quand ça ne fonctionne pas? Donc, ça, c'est la première activité. Et la deuxième, mais j'aide les dirigeants avec ma partenaire in crime qui est Valérie Codens. On les aide à recruter la bonne personne pour le bon poste. C'est-à-dire que nous mettons en place un tunnel de recrutement. On parle souvent de tunnel de vente en entreprise. Mais ici, on met en place un tunnel de recrutement pour attirer, comme des aimants, des candidats qualifiés.
Super, 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 super programme. Et ce que tu as dit juste avant m'intéresse, ce sera peut-être l'occasion d'un autre épisode. D'accord, si vous en avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer les mails privés pour réclamer que Karine revienne. Mais aujourd'hui, on va parler de recrutement. Est-ce qu'on peut commencer... ce qui m'intéresse, c'est que tu nous donnes un petit peu le contexte du recrutement aujourd'hui. Donc, tu nous en as un petit peu... commencé un petit peu à en parler. Comment on pourrait résumer le contexte aujourd'hui ? Parce que je crois que ta méthode, elle vient justement de ce contexte qui a évolué.
Oui, tout à fait. Parce que on est dans la plupart des postes dans de la pénurie. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que mes clients me disent, mais je n'arrive pas à recruter, personne ne postule. Et ça, c'est vraiment un désert, c'est assez atroce. Ou alors, des gens postulent, mais ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont pas du tout qualifiés. Ce que j'entends souvent également sur le terrain, c'est que, il y a plus les gens sont plus formés, etc. quoi, comment est-ce qu'on fait? Donc ça j'entends aussi. Ce qu'il y a, c'est que ce que beaucoup disent aussi, c'est cette sorte de désengagement ou des gens ne sont pas assez motivés, je dirais. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que il y a un turnover qui se met beaucoup plus rapidement, et il y a eu un changement avec le Covid également, et ils remarquent ce changement, ce turnover. Des fois, c'est pas pour aller chez un concurrent, des fois c'est pour aller chez un concurrent, mais des fois c'est complètement pour changer totalement de vie. Et donc ça aussi, ça fait peur également aux entreprises. Ce qui se passe, c'est que ce que je repère aussi quand même sur le terrain, c'est cette peur finalement de plus en plus de mal recruter, parce que ça coûte cher finalement. Et de se dire, mais enfin, je peux louper un premier recrutement, mais si j'en loupe plusieurs, ben ça met en péril finalement la continuité, je dirais, du processus dans l'entreprise, et puis ça a un coût également. Donc voilà, c'est ça que j'entends quand même beaucoup moins sur le terrain.
Il y a un coût moral aussi, je pense, sur les équipes. Quand ça fait 3 fois que tu recrutes quelqu'un et qu'il ne reste pas, au bout d'un moment, l'équipe elle se demande ce qui se passe. Et un truc que j'ai vu aussi, que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, j'ai pas mal aussi de gens qui me remontent que la personne rentre dans l'entreprise, elle est recrutée, et en fait, elle repart très très vite. C'est-à-dire que... ce qu'on me dit souvent, c'est parce que, en fait, la personne, finalement, elle avait plusieurs fers au feu, comme on dit, et puis elle rentre dans l'entreprise, puis tout d'un coup, un autre poste qui l'intéressait se libère aussi, et elle n'hésite pas à quitter l'entreprise et à aller de l'autre côté. Bon, moi, quand on me dit ça, je dis oui, en même temps, il y a peut-être un problème de rétention dans l'entreprise. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui s'est mal passé dans le recrutement, parce que normalement, si tu as bien fait ton recrutement, la personne ne s'en va pas. Et le constat que tu fais sur la pénurie, je fais exactement le même. La preuve, c'est qu'on a beaucoup d'élèves de la formation RDE, recruteur d'élite, qui nous disent, mais il manque ça dans votre formation. Comment on fait sur un marché en pénurie? Et la question, je l'ai de plus en plus. On avait d'ailleurs fait un ajout à la formation sur ce sujet-là. Et je l'ai de plus en plus parce que finalement, tous les marchés commencent à être en pénurie. Donc, je confirme vraiment ce que tu dis. Je ressens la même chose.
Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vrai que c'est assez fort. Alors moi, je fais toujours quand je donne une conférence, quand j'interviens pour parler du marketing du recrutement, pour parler concrètement finalement du dessous de cette méthodologie là, je dis toujours, alors j'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas faire apparaître plus de profils qu'il n'en existe sur le marché. Donc ça, il faut bien se rendre compte, c'est que les profils vont pas comme ça émerger. Par contre, c'est aller les chercher là où ils sont. Ça, par contre, ça, c'est possible.
Et est-ce qu'il y a des conseils à donner avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du recrutement pour un peu anticiper? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un recrutement sous pression où on s'affole, donc finalement on prend entre guillemets n'importe qui, ou on bâcle le processus, etc., pour finalement en fait perdre encore plus de temps parce que finalement on ne recrute pas la bonne personne. Est-ce que tu as des conseils, des outils, des choses à nous proposer pour justement pour éviter ce recrutement sous pression?
La première chose, en tous les cas, c'est de faire de la veille. Alors, on va me dire, oui, mais on n'a pas le temps de faire de la veille, etc. Donc, il existe des outils pour ça et on ne va pas faire de la veille sur tous les postes non plus. Donc, on va faire la veille sur des postes qui sont critiques pour l'entreprise où on sait qu'il y a peut-être un plus gros turnover, en tous les cas. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la veille? Ben, on va utiliser des outils marketing. Et donc, un outil, par exemple, qui est fortement utilisé pour LinkedIn, c'est Wallaxy, qui était l'ancien Prospectin, ou un autre, mais qui pour moi est voilà quoi, moi, je préfère en tous les cas Wallaxy, c'est Neodeal aussi qui existe, c'est les deux que je connais principaux qui sont en France.
Wallaxy, c'est Wallaxy.
W2A-L-A-X-Y. C'est
D'accord.
ça, d'accord?
Et en fait, ça sert à quoi?
Alors, Wallaxy, c'est un outil pour faire de la prospection sur LinkedIn. Donc, on peut envoyer des invitations en masse sur base de mots-clés. Sur
D'accord.
base, donc, on a peut-être en plus Sales Navigator qui est dans LinkedIn pour pouvoir faire des recherches. Et donc, on va alors inviter ces personnes-là, mais c'est un système qui est automatisé. Au lieu
D'accord.
d'utiliser je veux dire, se connecter à chaque fois, ce qui peut prendre beaucoup de temps, ben ça, je fais ça de façon à plus grande échelle. C'est ça qui va se
D'accord.
passer. Et puis alors, tu as des séquences. Donc, tu peux envoyer une invitation, puisque sans invitation, tu peux pas envoyer de message. Donc, un, d'abord, tu envoies l'invitation, et puis tu as une séquence qui se passe. Par exemple, tu envoies l'invitation et puis alors tu as un premier message et puis tu as un deuxième message. Et naturellement, ce n'est pas des messages à rallonge, etc. Mais il faut savoir l'utiliser. Mais déjà simplement que d'envoyer des invitations pour pouvoir avoir ça. Et donc, j'ai comme un CRM, mais j'ai ça pour les candidats.
D'accord, ok.
Voilà. C'est ça que ça sert, Wallaxy. Donc ça, c'est déjà une chose de pouvoir faire. Et puis, c'est de, si j'ai des postes qui sont plus, allez, plus cruciaux, je dirais, plus stratégiques pour mon entreprise, ben, je peux peut-être rester à l'écoute aussi, finalement, et de repérer, certaines personnes, et de me dire, ah, tiens donc, cette personne-là, ça m'intéresse, etc. Ou quand je vais dans des réseaux où, des réseaux physiques, finalement, c'est une opportunité aussi de pouvoir faire ça, de pouvoir faire des contacts et de se dire, ah, mais cette personne-là, elle m'intéresse pour peut-être prochainement tel poste, etc. Mais de garder et de garder du relationnel, c'est ça aussi. On le fait pour ses prospects, pour ses clients, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour des candidats quand on sait que c'est stratégique pour son entreprise?
Ouais,
Donc
avoir
ça,
une
c'est
espèce
un premier
de
outil.
vivier un petit peu
Oui, c'est
de
ça, oui.
un peu comme si tu
Alors
avais un
c'est
vivier.
pas, alors c'est vrai que ce vivier va vieillir si par exemple on garde toutes les candidatures spontanées qu'on reçoit. Mais par contre, quand on est sur LinkedIn, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus vivant. Alors ce qui va
D'accord.
se passer aussi, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de pouvoir. Tu parlais de processus, mais c'est de au moins une fois de pouvoir finaliser son processus, mais de le simplifier. Et c'est, par exemple, je ne sais pas moi, on voit d'abord Paul, et puis il voit Jacques, et puis il voit Henri, etc. Quoi? Est-ce que c'est nécessaire qu'il voit toutes ces personnes-là? Si je suis plus sous pression, qui est-ce qu'il doit voir? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour qu'on puisse passer d'étape en étape? Donc voilà, je peux des fois inverser mon processus et me dire, mais dans ce cas-ci, on va plutôt d'abord parler métier, puis on parlera comportement, etc. Donc je peux des fois voir, mais quels sont les leviers que j'ai dans mon processus. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, quand on est trop pressé, et ça était arrivé encore cette année avec un de nos clients, il était pressé, il a voulu changer certaines choses, mais on n'a jamais raccourci le délai. Hein. Et justement, parce qu'ils ont voulu se lancer en plein début août, mais ils n'étaient pas là tout le mois d'août. Et donc, ce qui fait que les candidats ont pu être vus début septembre pour des entretiens plus approfondis. Et ça a été, il y en a plein qui ont dit, mais j'ai trouvé ailleurs. Ah, ben ça ne m'intéresse plus, etc. Et donc, finalement, se presser comme ça parce qu'on a l'impression d'être pressé par le temps, eh ben, c'est pas de bon augure, quoi, en tous les
C'est
cas.
clair, c'est toujours une erreur. Vaut mieux, c'est ce que je dis, vaut mieux louper un bon candidat que d'en faire rentrer un mauvais.
Oui.
C'est un petit peu dans le même esprit de ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, bah quelquefois ça prend du temps et il faut accepter de travailler à effectifs réduits plutôt que d'absolument vouloir faire rentrer quelqu'un qui fera pas l'affaire. Parce que là, c'est pire que tout.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est vrai que on arrive des fois chez un client où il l'a pris comme ça. Oui, mais je n'avais pas trop le choix. Si on avait le choix de réduire la voilure, par exemple, ou de téléphoner à certains clients et tout ça, et de dire, voilà, on va postposer votre délai et tout. Et des fois, c'est des discussions que j'ai avec certains clients. Je dis, est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Est-ce que tu ne voudrais pas le faire et de voir ce que ça donne? Et donc là, tu veux, je bifurque sur du management, des choses comme ça, et de dire, mais est-ce que tu n'oserais pas? Et puis elle me dit, en réalité, j'ai téléphoné, ils sont tous d'accord. Ah, ben voilà. Et donc ça, on diminue la pression sur le recrutement parce qu'en vérité, c'est pas la pression sur le recrutement, c'est la pression qu'on a l'impression que les autres nous donnent pour
Tout à
pouvoir
fait.
livrer ce qu'on doit livrer.
Tout
Naturellement,
à fait.
bon, il y a des impératifs des fois également de chiffre d'affaires, ce que je peux comprendre aussi de toute manière. Voilà.
Est-ce qu'il y a des raisons fréquentes qui nous font louper des recrutements? On va arriver évidemment à ta méthode, mais avant, est-ce que tu peux nous dire peut-être les grandes erreurs que tu vois souvent ou bien ce qui fait que un recrutement capote? On vient d'évoquer le fait d'être sous pression et d'aller trop vite, mais après, dans la manière dont on mène le truc, est-ce qu'il y a vraiment des grandes erreurs à pas faire?
Moi, j'ai un client que j'ai accompagné il y a des années d'ici, et il me dit, je l'accompagne pour qu'il améliore ses recrutements, parce que lui voulait le faire lui-même. Et donc, je regarde avec lui comment il fait. Et donc, c'est un vétérinaire, et donc il a un cabinet vétérinaire. Et il me dit, Karine, j'ai des assistantes vétérinaires, soit elles s'en vont, ce qui est une catastrophe pour moi, je ne comprends pas pourquoi elles veulent s'en aller, parce que lui me dit, je suis quand même sympa et tout, quoi, et tout. Et donc, et puis, il y en a d'autres qui me disent, je n'ai qu'une envie, c'est qu'elles s'en aillent. Et donc, on commence à regarder et je me rends compte que, en refaisant sa fiche de poste avec lui, c'est qu'il ne voyait pas les compétences dont il avait besoin, qui pour moi me sautent aux yeux, mais pas pour lui. Et donc, une des choses, je lui dis, mais je dis, Jean-Pierre, ce dont tu as besoin, c'est d'une personne qui aime apprendre, qui a envie d'apprendre. Mais celle dont tu me parles, elles sont là, elles aiment bien s'occuper des animaux, de jouer au magasin, etc. quoi. Enfin, je caricature fort, hein. Mais lui, par exemple, tous les vendredis, il lui avait donné en début de semaine un médicament ou du paramédical, etc. Et le vendredi, il lui disait, ben, on aura une réunion pour que tu puisses m'expliquer comment ça se passe, comment je peux le prescrire, etc. quoi, pour donner des conseils à la clientèle, etc. Mais il me disait, ben, le vendredi, elles n'avaient rien fait. Ah. Et donc c'est toutes des petites choses comme ça. Et donc ce qui va être nécessaire, c'est de décrire des exemples hyper concrets de choses que j'ai envie de voir et des choses que je ne veux plus voir ou des choses qui se sont passées, des attitudes que j'ai vues. Et c'est grâce à ça, parce que lui me le racontait comme ça dans le flow, et moi je repère tac 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 des tas de choses. Mais quand on commence à les écrire, on se dit mais c'est quelle compétence qui se cache derrière? Et donc ça, ce sont les angles morts qu'on ne voit pas toujours parce que nous, c'est normal, on est le nez dans le guidon et c'est pas toujours simple de voir les compétences que l'on demande, mais qu'on n'a jamais mis de façon
C'est ça.
consciente sur papier. Donc ça, c'est une des premières choses.
Il y a aussi ça, c'est-à-dire que toi, tu es tellement, en tant que chef d'entreprise ou manager, tu connais tellement ton truc que tu ne te rends pas compte de ce. Enfin, tu oublies des trucs dans l'annonce
C'est
ou tu mets
totalement
des
ça.
trucs standards. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face de soi qui dit non, mais explique-moi ce qui s'est mal passé la dernière fois, tac, tac,
Oui.
quelqu'un qui décrypte, ça aide beaucoup. Donc déjà, éviter les angles morts. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu rencontres.
Je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est dedans, on a son métier, et par exemple, j'ai une autre de mes clientes qui est ingénieure, et elle n'attirait que des ingénieurs. Par contre, il y avait, elle me dit, et elle avait cette croyance que ben, des ingénieurs, quand ils sortent de fac, ben, c'est des gens qui savent réfléchir, qui savent analyser, qui sont curieux, etc. Donc, elle avait plein d'a priori positifs, mais à chaque fois, elle était déçue. Et elle me dit, voilà, et en plus, qu'elle me dit, je n'attire que des ingénieurs, alors que dans le métier qu'elle faisait, elle pouvait aller dans d'autres métiers. Et donc, on a refait l'annonce avec elle, avec un angle de vue qui n'est pas un angle de vue d'ingénieur, parce qu'on lui a demandé d'ouvrir beaucoup plus, de sortir de ce canevas d'ingénieur. Eh ben, on a recruté des personnes qui sont plutôt dans la biologie ou la chimie, des gens qui sont dans l'océanographie aussi, puisque elle est dans l'analyse de sol. Et donc, on pouvait sortir finalement du canevas pur ingénieur pour pouvoir recruter d'autres types de personnes. Et ce qui fait que ça donne d'autres perspectives. Et donc là aussi, c'est de pouvoir sortir de son métier, de comment également les a priori qu'on a du métier que l'on pense, et de dire, ok, et c'est une des questions que l'on pose, nous, quand on arrive, c'est, ok, mais quel type d'expérience, quel type d'étude et tout ça, mais on lui demande de lister, pas juste, il faudrait qu'il soit ça, etc. Ok, et s'il n'avait pas du tout ce diplôme-là, quelle expérience qu'il devrait avoir, et tout ça. Et donc, on commence vraiment à creuser parce que, mais pour nous, ce qui est important, c'est de faire un profilage.
Ok, profilage, je crois que c'est un terme que j'ai déjà... Est-ce qu'il y a d'autres désordres? Donc ça, c'est un peu l'erreur, ce que tu viens de décrire, c'est je recrute des gens qui me ressemblent. Ou moi, je suis ingénieur, donc ça me rassure. Et en fait, quand tu fais un profilage, souvent, non, justement, ce n'est pas des gens forcément qui te ressemblent, qui sont compatibles. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs?
Oui, c'est le mouton à 5 pattes. Hein, Pardon? C'est le mouton à 5 pattes.
Mouton à 5 pattes.
Ah oui, ça c'est courant, quoi. On a envie de cette perle rare, et c'est logique. Et alors, on va demander une liste de compétences à l'intérieur, et il devrait avoir telle expérience, y avoir fait ceci, etc. Mais des fois, c'est beaucoup trop ambitieux. Ce qu'on va faire ici, on a eu par exemple un client cette année qui nous a demandé un profil très très spécifique qui est assez rare sur le marché. Et donc on a déjà cadré avec lui le profil, et puis ce qu'on fait, c'est que, et c'est toujours comme ça, on doit envoyer l'annonce dans le marché, et c'est le marché qui nous donnera la réponse. Il faut faire confiance au marché. Et donc on a envoyé l'annonce, on a reçu des réponses. Et il nous disait non, ça ne va pas pour ceci, non, ça ne va pas pour cela. À chaque fois, il avait une partie, mais pas tout. Et donc, après,
il avait
on revient.
Pattes, mais il n'avait pas les 5.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, au fur et à mesure, on doit y aller d'itération en itération. Quand c'est un nouveau poste que l'on a, qu'on ne connaît peut-être pas ce métier-là vraiment, à l'intérieur de l'entreprise, on envoie l'annonce dans le marché, il nous répond et on va commencer à affiner les choses et commencer à faire évoluer. Vouloir que tout soit parfait dès le départ, des fois, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, on va retirer une patte pour pouvoir avoir un mouton à 4 pattes, quoi, à un moment donné. Et donc ici, avec ce client-là, ce qui s'est passé, c'est que on a revu l'annonce, on a revu les compétences, et puis on s'est rendu compte que on recevait les bonnes candidatures, mais par contre, il n'avait pas les moyens, donc il n'avait pas le package salarial qui correspondait à ce qu'il demandait. Et donc là, idem, on rediscute au niveau du salaire, du package. On dit voilà. Le marché nous répond ça. À l'heure actuelle, voilà ce qu'il y a sur le marché. Et c'est ce package-là qui est demandé. On regarde également quelle latitude on a sur le package. Et puis, c'est de revoir également avec le client revoir, OK, mais si tu ne sais pas t'offrir ce profil-là, quel autre profil est-ce que tu sais également t'offrir? Donc, voilà. Donc, le conseil ici, c'est le mouton à 5 pattes. Si tu veux essayer, vas-y, peut-être que tu le trouveras. Mais en tous les cas, sache que tu vas aller d'itération en itération pour pouvoir affiner et trouver la personne qui te correspond, qui correspond aux défis que tu as. Parce que tu vas pouvoir également... Des fois, je dis que c'est un jeu Tetris, finalement, à l'intérieur, et qu'on va un peu on va adapter, mais on ne peut pas naturellement tordre son organisation pour engager des personnes. Et ça, par exemple, j'ai eu une amie entrepreneur dernièrement on a relisté, si tu veux, ses processus pour la fiche de poste. Et je lui disais, mais tu tords ton organisation pour faire rentrer certaines personnes que tu as repérées. Mais je dis, tu te fous une balle dans le pied, quoi. C'est pas possible, quoi. D'abord, tu dois regarder à partir de ta fiche de poste pour pouvoir aller vers, OK, cette personne-là, où est-ce que je peux la mettre, mais en ayant ces fiches de poste qui sont déjà là, qui sont ma base, finalement, et pas le contraire.
Il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, qui d'ailleurs c'est une démarche marketing, c'est ça qui est rigolo dans ton approche. Je ne veux pas dévoiler ce qu'on va dire après, hein, tout de suite, mais ton histoire de bah, mets ton annonce et puis en fonction du retour que ça a sur ton annonce, tu vas faire évoluer ton annonce. Et
Tout à
ça,
fait.
c'est vraiment une méthode marketing, hein. C'est tu mets ton premier produit, produit minimum viable, tu le mets sur le marché, tu regardes si tu as des clients pour ça, si tu n'en as pas ou que ce n'est pas les bons clients, tu modifies ton produit, etc. C'est un peu ce que tu racontes, je trouve, sur l'annonce. Je trouve que c'est intéressant, je trouve que ce n'est pas une manière habituelle de recruter. Alors, tu m'as dit donc l'histoire du mouton à cinq pattes, le fait de se rendre compte qu'en fait finalement on veut un type de profil mais qu'on peut pas se le payer. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est une itération aussi. Est-ce qu'il y a encore des erreurs qui peuvent plomber le recrutement?
C'est de recruter par rapport à ses anciennes recrues. Et donc ici, après Covid, on s'est occupé quasi de recruter toute une nouvelle équipe parce que le Covid avait décimé toute l'équipe, enfin une grosse partie de l'équipe en tous les cas. Et ici, l'entreprise avait évolué dans sa maturité, dans les attitudes qu'il demandait, dans certains types de professionnalisme, etc. Et donc là, on a recruté différemment. C'est-à-dire que quand je me suis occupée de cette entreprise-là, il m'a expliqué ce qu'il ne voulait plus voir, également dans son entreprise. Et puis je lui ai dit, mais tu as changé parce qu'on s'intéresse également à l'entreprise, à comment elle s'est construite, comment, pourquoi elle est sur son marché et tout ça, par quelle évolution elle est passée. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, on ne va pas te recruter comme tes anciens collaborateurs, tes anciens salariés. Il y a d'autres choses que tu me dis qui sont nécessaires de faire rentrer dans ton entreprise. Et donc, après, il m'a dit, waouh, quoi qu'il fait, les réunions d'équipe sont plus du tout les mêmes, quoi. Je n'ai plus les mêmes questions, je n'ai plus les mêmes besoins, etc. Il me dit, c'est tellement, allez, soulageant et motivant d'avoir une autre équipe en face de soi. Donc, c'est ça aussi, c'est de regarder ça, la maturité qui s'est transformée dans mon organisation également, parce que je n'aurais peut-être plus besoin, finalement, du même type de profil que j'avais auparavant. Donc, c'est très bien on parlait tout à l'heure de la pression sur le recrutement, d'avoir son processus et donc d'avoir son annonce qui est déjà prête à l'emploi, je dirais. Il faut naturellement la revoir à un moment donné pour voir est-ce que je suis toujours bien dans cette même maturité de mon entreprise ou pas.
Alors, je ne sais pas si ça correspond à ça, mais tu vois, nous, on avait eu ce truc-là de se dire, nous, dans une de mes entreprises, on estime que la vente, elle se passe vraiment chez le client. Et que donc, on cherche plutôt des gens qui vraiment n'ont aucun problème par rapport au fait de découcher toute la semaine, etc. Parce que, on est au niveau national, mais on n'est pas une grosse entreprise. Donc, oui, ça veut dire que. On va plutôt être souvent en déplacement quand on est dans la partie commerciale chez nous. Alors, je n'ai pas répondu à cette question encore, hein. Je ne connais pas la réponse, mais à un moment, on s'est dit, mais on a tellement de mal à trouver des gens qui acceptent ça aujourd'hui, alors que nos commerciaux actuels, voilà, ça fait partie de leur vie, etc. On s'est dit, mais est-ce que la manière de vendre n'a pas évolué? Est-ce que peut-être qu'on a besoin d'un autre type de profil ou d'une autre organisation commerciale qui ferait que on aurait moins la nécessité de chercher des gens, voilà, qui sont uniquement, enfin, qui s'éclatent que sur le terrain, quoi. C'est une des questions qu'on s'est posées. Je pense que ça, parce que tout simplement, on trouvait personne, quoi.
Oui, voilà,
On
c'est ça.
avait du mal dans notre secteur à trouver quelqu'un qui ait envie de ça.
Et donc, tu
Donc,
touches quelque chose qui est intéressant parce que c'est quand on n'a pas de candidat, est-ce que c'est l'annonce, est-ce que je ne parle pas suffisamment à mon candidat? Est-ce que je ne suis pas suffisamment orienté candidat dans mon annonce? Ou est-ce que les habitudes ont changé? J'ai comme ça un de mes clients qui est dans tout ce qui est tourisme. Et il me dit, Karine, l'après-Covid, plus personne ne veut travailler le week-end. L'embêtant, c'est que dans le tourisme, c'est quand les autres sont en congé que ces personnes-là travaillent. Donc,
C'est
c'est
clair.
hyper compliqué pour lui.
Ouais.
Et soit alors il pouvait se taper la tête contre le mur tout le temps et bon, c'est lui qui allait se faire mal, soit alors de revoir et de dire, OK, on a quand même, nos activités doivent quand même être le week-end, mais par contre, on doit avoir un autre type d'organigramme. On doit revoir ça et il est en chemin pour pouvoir faire ça parce que il me dit, et il me dit, c'est partout dans toute la région où il est, on a tous le même problème. L'après-Covid, les gens veulent plus travailler le week-end, travailler les soirées. Bon, on sait très bien que dans l'horeca, mais c'est hyper compliqué de trouver du personnel qui veut travailler encore le week-end et les soirées. Et donc, il y a une transformation qui est en train de se faire. Moi, qui travaille beaucoup chez les vétérinaires, les gardes, c'est très, très contraignant chez eux. Et toute cette nouvelle génération, enfin, j'aime pas parler de génération, mais toute ces nouveaux vétérinaires qui arrivent sur le marché de l'emploi, ils disent, mais moi, je n'ai plus pas envie de la vie que vous aviez auparavant. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est de se dire, OK, donc, il y a, si j'ai pas de candidat, est-ce que c'est mon annonce? Est-ce que c'est le marché de l'emploi qui a changé? Est-ce que c'est parce que j'ai des a priori finalement et que sur un certain type de profil, etc. Donc, il faut voir. Et puis, des fois, est-ce que c'est pas mon management aussi qui doit évoluer? Ça aussi, c'est une question qui doit se poser à un moment donné.
Parfois aussi, il faut se décaler de secteur. Tu vois, par exemple, nous, on est dans une certaine industrie et dans cette industrie-là, on ne trouve plus de gens qui soient à la fois de l'industrie et qui acceptent les déplacements. On peut aussi dire, c'est pas grave, je prends des gens qui acceptent des déplacements, quelle que soit l'industrie de laquelle ils proviennent, et je vais les former parce que, voilà, accepter les déplacements, c'est un mode de vie et il y a encore des gens qui recherchent ce mode de vie, qui trouvent un équilibre dans ce mode de vie, ça existe encore. C'est comme dans la restauration. Je veux dire, t'as pas trop le choix. Si tu veux être ouvert le dimanche, il faut bien quand même trouver quelqu'un qui accepte de travailler le dimanche. Donc,
Oui, c'est ça,
des
oui,
fois, il
tout
faut se
à fait.
décaler un petit peu de marché.
Oui.
Ok, bon. Donc, merci pour les erreurs de base. Parce que, en plus, j'ai bien aimé tes réponses parce que ça éclaire un petit peu sur la manière dont tu vas résoudre le problème. Alors, j'ai une question générale avant qu'on rentre vraiment dans ta méthode. T'as mis le doigt sur le fait qu'actuellement, on trouve quand même. On a une impression, je dirais, des chefs d'entreprise ou des managers en poste qui recrutent, d'avoir du mal à trouver des gens prêts à s'engager. Ça,
Oui.
je l'entends énormément. Je l'entends de la part des chefs d'entreprise et des managers à propos des gens qui sont dans leur entreprise, qui découvrent que tout d'un coup, là où ils faisaient confiance, ils se rendent compte que les gens ont pris leurs aises parce que finalement, le boulot, ça passe un petit peu après. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein. Après, la vraie raison derrière, je la connais pas. Mais j'entends beaucoup cette histoire de salariés qui sont de plus en plus désengagés ou qui sont de moins en moins engagés. Et puis, je l'entends aussi quand les gens essayent de recruter, où ils me disent, mais le gars, il arrive, et la première chose qu'il me demande, c'est est-ce qu'il peut être en télétravail, alors que c'est un poste où on ne peut pas lui proposer de télétravail. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup ce sujet de l'engagement. Et donc, j'ai une question vraiment générale. Peut-être que t'as pas une réponse unique à donner à ça, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de dénicher des gens qui seront vraiment capables et volontaire pour s'engager dans l'entreprise. Ou est-ce qu'il faut, d'après toi, se dire, bah non, finalement, on va devoir travailler autrement, on va devoir recruter des gens pas très engagés, et puis tant pis, c'est comme ça qu'on est obligé de faire, il faut jeter l'éponge, il faut plus essayer de rechercher les personnes très très engagées qu'on essayait d'avoir dans le passé.
Je dirais, c'est moi, je regarderais déjà le mot engagement. Qu'est-ce que ça veut dire de part et d'autre? Chez le candidat, ça veut dire quoi l'engagement par rapport à chez moi? Et comment est-ce que ça a évolué cet engagement? Parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui sont engagés, qui sont motivés, mais c'est et c'est à mon avis des choses dont tu parles dans certaines de tes formations, c'est
Bien sûr.
que il faut aller rechercher les motivations intrinsèques de la personne. Les motivations internes, c'est qu'est-ce qu'il motive lui? Est-ce que ça correspond à des motivations intrinsèques qu'on a dans notre entreprise également? Et donc, parce que de dire on attire par le salaire, par exemple, ben, on sait très bien, les études scientifiques nous montrent que ben, au bout de quelques semaines, ben, ça devient habituel pour la personne. Ça tombe tous les
Exactement.
mois, c'est comme ça, et j'ai adapté mon niveau de vie à ça. Mais par contre, c'est quoi les motivations intrinsèques, par exemple, ben, d'aimer apprendre cet aspect cognitif? Et pour une de mes clientes, je sais que chez elle, c'est super important ce cognitif parce qu'elle est dedans. Et c'est par exemple, voilà, c'est dans l'engagement, chez elle, elle met par exemple la rigueur. Être rigoureux, ben ça, elle voit de l'engagement de la personne quand les gens sont rigoureux. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière comme valeur.
Excuse-moi, je te coupe. D'ailleurs,
Allez.
souvent, ce n'est pas comme ça qu'elle l'exprime. Elle ne dit pas, moi, être rigoureux, ça montre de l'engagement. Elle dit plus souvent, ce genre de profil, non, mais elle s'en fout. Elle finit pas le boulot, elle le fait mal, donc c'est qu'elle n'est pas engagée. Alors
C'est
que,
totalement ça.
en réalité, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui n'est pas un finisseur. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le détail, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas engagé, d'ailleurs.
C'est ça
Mais
totalement.
cette remarque, je l'ai eue aussi, c'est pour ça que je me permets d'intervenir.
Ah
Mais je
oui,
comprends ce que tu veux dire. Le
c'est
mot
totalement ça.
engagement,
Ouais.
qu'est-ce que ça veut dire? Et puis un autre truc, moi je trouve qui est compliqué, c'est que en fait, souvent, tu te rends compte que le candidat lui-même, il ne sait pas répondre à cette question. Il ne sait pas vraiment ce qui le motive. Il va te dire, non mais je suis hyper motivé. Et puis tu lui dis, bon, alors qu'est-ce qui vous motive dans le poste? Bah ouais, c'est parce que c'est une petite société familiale. Donc ça me motive. Mais il y a des petites sociétés familiales où c'est absolument épouvantable et d'autres où c'est formidable de travailler.
C'est
Hein,
totalement ça.
c'est très dur, hein,
Ah oui.
de détecter ça.
C'est ça. Et donc, c'est le job, c'est d'aller voir, mais chez moi, c'est quoi une personne engagée? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, c'est pas non plus, on reste pas dans du conceptuel, parce que, tu sais, engagement, motivation, etc., tous
On est
ces mots
d'accord.
qu'on sort, je dis, OK, je veux bien, mais c'est que des mots, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire, la personne? Et donc là, alors, je vais aller repérer des valeurs d'entreprise, parce que c'est pas non plus parce que les valeurs sont affichées que c'est celles qui sont vécues dans l'entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui est réellement vécu? Et donc, je vais tenter de rapprocher au mieux. Par exemple, dernièrement, j'avais eu un candidat. Il était vraiment génial au niveau métier et tout, et au niveau attitude aussi. Par contre, c'était quelqu'un d'hyper ambitieux. Mais une belle ambition. On voyait vraiment, il avait envie d'apporter des nouveautés dans l'entreprise et de faire croître de mettre des nouveaux produits, etc., pour avoir plus de chiffre d'affaires et tout. Mais je sais que ma cliente, elle est dans une phase de son entreprise où elle dit, je veux rester avec les clients que j'ai à l'heure actuelle, je veux pouvoir consolider ce que je fais déjà et pas continuer à m'étendre. Elle l'a déjà fait. Elle me dit, je suis dans une phase où je veux pouvoir rester
Consolider.
sur mes bases, si tu veux. Et donc, je lui ai dit, mais vous n'allez pas être heureux là-bas. Parce que elle va pas pouvoir vous laisser faire. Et donc, je n'ai pas envie que d'ici 6 mois, 1 an, vous partiez parce que vous êtes frustré. Et la personne m'a répondu, elle me dit, vous savez que vous êtes une des seules qui me dit ça. Et qui m'aide justement à pouvoir mettre des mots sur ma manière de fonctionner et tout ça. Et donc, c'est une particularité qu'il y a dans, que tu disais, ma méthode, c'est la puissance des questions. Et donc ça, c'est
Hyper
aussi,
intéressant.
si on revient à une autre question que tu avais auparavant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on loupe un recrutement, c'est parce qu'on ne sait pas poser des questions. On ne sait, on... Et que ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Soit parce qu'on parle tout le temps et qu'on ne laisse pas l'autre finalement, parce qu'on vend trop le truc. Et c'est la même chose en marketing, qu'est-ce qu'on fait? On laisse principalement parler notre prospect. pour pouvoir aller capter que ce comment il aller de ce dont il a besoin, comment il vit, etc. Mais ici, c'est la même chose. Le candidat, il doit de plus en plus me raconter des choses pour que je puisse mettre des mots finalement sur sa manière de fonctionner. Et donc, moi, la plupart du temps en recrutement, je leur dis, donc vous m'avez raconté ça, est-ce que je peux comprendre que pour vous, c'est important ceci? Le dépassement de soi, par exemple, etc. Et des fois, ils se disent, ah, j'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, finalement, oui. C'est vrai que, ils me racontent des fois plusieurs fois différentes histoires, et à chaque fois, ça se recoupe, ça se recoupe, ça se recoupe. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, certains candidats me disent, eh bien, je me connais mieux en sortant de votre entretien qu'en étant rentré dans l'entretien. Mais je dis, c'est
Ouais,
génial, quoi.
super.
C'est ça.
Ouais, très très bien. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu restes pas au niveau des mots, tu mets ou des concepts, tu mets un comportement.
Ah oui.
Et tu vois, l'exemple que tu m'as donné en disant, mais cette dame, finalement, elle n'est pas engagée parce que elle est pas précise, ou
Rigoureuse.
elle n'est pas
Oui.
rigoureuse, c'est ça,
Oui.
pas rigoureuse. Et bien, justement, l'engagement, en plus, non seulement il peut ne pas avoir la même signification dans deux entreprises différentes, mais il peut ne pas avoir le même comportement dans deux postes différents. Par exemple, chez moi, dans mon entreprise, c'est mon cas particulier, dans d'autres entreprises, ce ne sera pas ça. Une valeur d'engagement que je vais trouver chez une administration des ventes, c'est-à-dire une personne qui prend les commandes puis qui fait le suivi, etc., ça va être la rigueur. Parce que là, on est dans un domaine, on prend la commande du client, il ne faut pas prendre la moitié de la commande, il faut prendre
Oui,
toute la
c'est ça.
commande. Et surtout, il ne faut pas se tromper dans l'adresse, il ne faut pas se tromper dans le produit, donc il faut être extrêmement rigoureux. Donc la valeur d'engagement ici, effectivement, ça va être la rigueur, puis il va y en avoir une autre qui va être de prévenir le client, la prévention, dire, oh, il y a un problème, il faut que j'appelle mon client pour le rassurer, etc. Ça, c'est l'administratif.
Oui.
Le commercial qui peut être en binôme avec elle, je vais sûrement pas mettre comme valeur d'engagement la rigueur.
Non.
Je vais plutôt mettre comme valeur d'engagement la ténacité,
C'est
c'est-à-dire je
ça.
lâche pas le, si je suis en train de faire du développement, je lâche pas le client, il me fait sortir par la porte, je rentre par la fenêtre, etc. Ça, c'est une autre valeur d'engagement, de pas se décourager, de connaître d'être tellement fier de sa société, qu'on est capable justement de faire des choses qu'on ferait peut-être pas dans la vie
C'est ça.
privée.
C'est ça.
Voilà,
C'est de
d'être très
l'audace, hein, pour
assertif
un... Voilà
ou de
quoi.
l'audace,
Ou de
etc.
l'audace et tout ça, oui.
Et c'est vrai que, en général, quand tu fais un recrutement, on te dit bah, donnez-moi une fiche de poste. OK. Une fiche de poste où tu vois ces trucs-là dans une fiche de poste. Tu n'as
Oui.
pas ça dans une fiche de
Non.
poste. Tu as, oui, les compétences, oui, il faut qu'il parle anglais, il faut ceci, cela, qu'il accepte des. Mais ce truc-là, qui est quand même assez fondamental, en général, dans les méthodes de recrutement, tu ne l'as pas. Donc, on va pouvoir arriver à ta méthode de recrutement. Est-ce que. Donc, déjà, la question, c'est simple. En fait, tu parles de marketing du recrutement.
Oui.
Ce sera peut-être le titre du podcast, certainement, qu'on choisira. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé, on n'a pas trouvé le titre, mais tu appelles ça le marketing du recrutement. Pourquoi tu appelles. Alors, on a vu, oui, tu testes les annonces. On voit bien que tu parles de tunnel comme un tunnel marketing, etc. Est-ce que tu peux nous dire en gros qu'est-ce que ça veut dire, ce truc de marketing du recrutement?
Ok, donc quand on est dans un tunnel de vente, on a un public cible. Ok? Après, on va qualifier ce public. Donc on va commencer à créer un persona, d'accord? Dans le marketing pur. Et puis alors, après, ils vont rentrer dans une sorte d'entonnoir où ils vont passer différentes étapes pour pouvoir à un moment donné cliquer sur « Je commande » pour passer client. Okay? Donc, en recrutement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a tout une population cible, mais on veut la qualifier, celle-là. Et donc, nous aussi, on va, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va faire un profilage. Je veux profiler cette population-là pour pouvoir la qualifier. Et puis, je vais, donc dans le marketing aussi, on va faire un lead magnet, donc quelque chose qu'on va attirer, on va apporter de la valeur, on va attirer via, je veux dire, un produit gratuit, etc. Nous, c'est notre annonce, le lead magnet.
Ok,
Mais,
super.
et donc, c'est, si tu veux, je vais transformer la page de vente que j'ai dans mon lead magnet. C'est mon annonce, la page de vente. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette page de vente-là? C'est que je ne parle pas de moi, je parle de lui, je parle de ses besoins, je parle de ses envies, etc., qui naturellement correspondent à mon entreprise. Mais je vais lui parler parce que le but que j'ai, c'est qu'il se dise, et c'est parce que les candidats me le disent, ils me disent, mais cette annonce, elle est écrite pour moi. Ouais. Je dis oui. J'adore cette réaction-là parce que oui, on l'a avec Val, parce que c'est Val qui écrit les annonces, elle est vraiment dedans, quoi. Elle se dit, ok, mais là, je mets du cœur pour pouvoir lui parler à lui, parce que c'est lui que j'ai envie qu'il clique sur « je postule ». Et c'est ça, quoi, parce que tout à la fin de notre annonce, on dit « nous t'avons convaincu, point d'interrogation ?» Ben alors, clique ici. Comme dans une page de vente où on ne dit pas on dit à la personne ce qu'elle doit faire. Et donc, on a toute une annonce qui va être mise sous forme. On va transformer la page de vente en une annonce, si tu veux. Et donc, c'est ça. Donc là, top. Et puis alors, ben, l'entonnoir chez nous, ben, c'est les différentes interviews qu'il va avoir. Et dedans, c'est naturellement, il y en a certains qui vont rester là parce que nous le décidons et parce que eux, des fois, le décident. Dernièrement, ça m'est encore arrivé pour le recrutement de quelqu'un qui il devait avoir le diplôme de vétérinaire, mais pour faire de la communication. Et dans son CV, je voyais qu'elle avait fait une formation dans tout ce qui était retour à la nature. Donc, tu sais, c'est promenade en forêt, en prenant les arbres, je veux dire, en faisant des câlins avec les arbres et tout ça. Et donc, voilà quoi. Et donc, très connectée à la terre, etc., très dehors et tout. Mais c'est un métier. Ici, elle sera 8 heures par jour derrière son PC pour faire de la communication. Ouais. Elle me dit non, ça devrait aller, etc. Je suis pas persuadée, mais... Je vais laisser un peu de temps, je reparlais en interne, et puis quand je l'ai rappelée pour lui dire que ça n'allait pas aller, elle m'a dit non, vous avez bien raison, hein, qu'elle me fait. Ça n'irait pas non plus qu'elle me fait. Et donc voilà, parce qu'elle aussi s'est arrêtée à ce moment-là. Donc voilà, donc on a différentes phases, et on va toujours faire un suivi entre les différentes interviews qu'il y a, parce que j'ai besoin de garder du lien. Dernièrement, avec une candidate, son compagnon est en Israël, et normalement, elle devait partir là-bas, et donc, elle n'est pas partie. Je lui téléphone pour lui donner la suite des opérations, et donc et également lui dire, voilà, où on en est, tout ça, dans les discussions en interne, et tout ça. Puis à un moment donné, je lui dis, et comment est-ce que vous vivez la situation actuelle? Parce que ça ne doit pas être facile pour vous quand même. Et bien, elle m'a dit, oh, ça, c'est gentil qu'elle me fait. Et j'étais là, je me suis dit, ah, waouh, parce que pour moi, c'est tellement naturel de m'intéresser aux gens. Mais pour la personne, c'était, c'était une marque de, voilà, ça crée du lien et c'est nécessaire de pouvoir faire ça. Comme on fait avec un prospect, si tu veux.
Ben oui, c'est un peu comme ça que tu crées ton vivier. Moi j'ai aussi ça, je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, il y a des gens avec qui je suis en contact depuis 10 ou 15 ans, qui ne sont pas dans mon industrie. J'en ai même un qui a failli être recruté chez moi, puis pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait, mais on se parle encore régulièrement.
Ouais.
Et je sais qu'un jour, ça va tomber, il va venir chez moi. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement, ni etc., etc., mais ça va arriver. C'est intéressant d'avoir des gens comme ça.
Alors, voilà, il passe dans l'entonnoir, et puis alors, il y en a un, il va signer son contrat. Et donc, il va passer de candidat à salarié, comme il passe de prospect à client. Voilà notre processus.
Ok. Il y a un truc qui est vraiment intéressant et contre-intuitif, d'ailleurs, peut-être pour certaines personnes, c'est que, en fait, quand on est devant une pénurie de candidats, quand on se rend compte qu'il y a moins de candidats, etc., qu'est-ce qu'on fait? En général, on se dit, je vais faire l'annonce la plus générale possible, comme ça, je vais capter le plus de personnes possible. Et toi, tu fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que tu fais une annonce extrêmement précise par rapport à un profil, parce que tu veux attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu veux peu de monde dans ton processus, mais des gens super qualifiés. C'est vraiment une démarche marketing.
Ouais.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est que cette manière de faire, elle peut échouer. Parce que comme tu es très proche du profil que tu as fait, qui est ton avatar, quelquefois, tu ne vas pas avoir de candidat. C'est-à-dire que...
Ce n'est jamais eu le cas.
Voilà, bon, bah, super. Mais
Oui.
ou bien tu vas en avoir quelques-uns, ça ira pas au bout. Et ce que j'aime bien, c'est le deuxième étage de ta fusée, qui est l'itération. C'est-à-dire que si cette méthode ne marche pas, c'est pas la méthode qui marche pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de candidat. Et donc, dans ce cas-là, l'itération, elle est intéressante. Ça veut dire que finalement, ton poste ou la description que tu as fait de ton poste est pas adéquate par rapport au marché. Et donc, tu refais jusqu'à ce que tu aies la bonne annonce et que tu commences à capter les candidats de qualité. Est-ce que j'ai compris ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Je le dis parce qu'au début, moi, je me suis dit, bah ouais, mais dans un marché de pénurie, ton entonnoir, tu as envie de l'ouvrir. Et c'est une erreur. Parce
oui,
qu'en
c'est
fait,
une
tu fais
erreur parce que.
rentrer. Voilà, tu fais rentrer des gens qui, de toute façon, faut pas qu'ils aillent au bout parce que, de toute façon, ils correspondent pas à ce que tu veux.
C'est
Ça sert à
ça.
rien de les faire rentrer, quoi.
Tout à fait.
Okay.
Et donc, c'est ça, c'est il y a une citation qui dit, si tu veux attirer tout le monde, tu n'attires personne.
Ouais. Ah oui, il y a la polarité aussi, c'est-à-dire
Et donc,
que.
c'est ça, quoi. Donc, si je veux parler à tout le monde, je parle à personne en particulier.
Bah.
Parce que voilà, c'est ça aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ben, je vais parler avec personne en particulier, et c'est souvent ce qu'on remarque dans les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à trouver leur persona parce qu'ils disent, oui, mais je risque de louper ceci, oui, mais je risque de louper pour cela. Eh ben, on a le même syndrome dans le recrutement. Oui, mais je risque de louper des candidats. Mais justement, c'est voilà.
Je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la difficulté qu'on a à trouver des gens qui se
Oui.
déplacent. Et on nous dit, ben non, les gens, ils veulent plus se déplacer. Bon, moi, j'en suis pas fondamentalement convaincu, hein, entre nous. Mais je me trompe, hein, j'ai pas de statistiques. Mais du coup, je pourrais être tenté par le fait de pas trop dire qu'il y a du déplacement au début pour attirer les gens. Et puis, une fois qu'ils sont devant moi, et c'est une erreur. En fait, il faut
Oui.
presque commencer l'annonce en disant, vous adorez le déplacement.
C'est ça
Et comme ça.
totalement.
Et du coup, c'est ça la polarisation,
Oui.
c'est que les mecs qui n'aiment pas le déplacement, ils fuient ces annonces-là. Et en fait, tu veux qu'ils fuient ces
Oui.
annonces-là. Parce qu'en fait, alors tu vas peut-être pas le formuler en disant vous adorez le déplacement. Vous adorez gérer votre secteur comme si c'était une mini-entreprise. Vous aimez changer d'interlocuteur. Enfin, voilà, les gens qui aiment le déplacement, en réalité, pourquoi ils aiment le déplacement? Mais en tout cas, enfin voilà, moi je trouve que déjà, ce truc-là, c'est super intéressant. Le truc de dire. Non, je fais une annonce polarisante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont rejeter mon annonce et c'est ce que je veux. Je trouve que c'est très, très intéressant. Et puis
Alors, c'est.
l'itération.
Alors, peut-être que des personnes qui nous écoutent vont se dire, oui, mais alors, je risque de ne pas avoir des candidats qui sortent un peu des sentiers battus et tout ça. Et justement, c'est ça. Nous, on
OK.
a plein de candidatures qui sortent du canevas. Et donc, j'ai une candidate, par exemple, elle me dit, oui, qu'elle me dit parce que j'ai quand même un CV qui est atypique. Et je lui dis, mais. En quoi votre CV est atypique? Pour moi, il est pas du tout atypique. Oui, mais
Ouais.
c'est parce que j'ai commencé d'abord à faire, je ne sais plus, c'était, je crois qu'elle avait fait la chimie. Elle avait fait ses 2 premières années après le bac en chimie. Puis après, elle a bifurqué vers l'océanographie. Mais je dis, pour pouvoir aller vers l'océanographie, on doit faire quand même des études scientifiques auparavant. C'était en Belgique, hein, ça. Et donc, je vois pas où elle est. Et je dis, qu'est-ce qui vous dit que vous êtes si atypique ça? Ah, mais qu'elle me dit, quand j'ai travaillé dans un hôpital, on m'a dit, ah, c'est quand même atypique. Oui, mais vous êtes dans un hôpital, je fais. C'est très cadré, etc. Mais dans le monde de l'entreprise, ben, il n'est pas si atypique que ça, quoi, finalement. Voilà.
Oui.
Et c'est vrai que nous, c'est ça qu'avec Val, c'est ça qu'on aime, c'est avoir également des CV qui sortent de l'ordinaire. Donc, on est très peu sur des diplômes, on va être
OK.
beaucoup plus sur des attitudes, sur
Oui.
de l'expérience que la personne a, etc. Parce que c'est ça dont on a besoin aussi en entreprise, c'est
Ah, ça
d'avoir
tout
des
à fait.
personnes qui ont certaines attitudes. Pourquoi? Parce que un métier, on peut l'apprendre suffisamment, je veux dire, plus ou moins rapidement. Mais des attitudes, quand je travaillais dans un département RH, quand j'étais toujours salariée, ce qu'on disait, c'est que pour changer une attitude et quand la personne le veut, il faut déjà minimum 1 an. Alors quand la personne ne le veut pas, ben, c'est quasi impossible. Et puis de toute façon, est-ce que c'est notre mission en tant que dirigeant de faire évoluer des gens qui n'en ont pas envie, quoi? C'est ça aussi. Est-ce que c'est. Voilà. Et
On n'est
donc.
pas psy, hein. On n'est pas
Voilà, c'est ça. Et c'est
et
ça
on n'est pas.
aussi, c'est que c'est des fois, c'est ce que je dis à des dirigeantes que j'accompagne, c'est de leur dire, mais à un moment donné, tu dois t'arrêter là, parce que là, par contre, c'est plutôt un, c'est des problèmes qu'elle doit régler dans sa vie personnelle, par contre. Et donc, ça, c'est très compliqué quand on est face à ça, face à de la souffrance au travail, etc. Parce que, ben oui, c'est l'attitude que la personne montre, je veux dire, les comportements qu'elle a, ben, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et donc, ça va, c'est assez compliqué. Ouais.
Pour revenir à ta méthode, est-ce que c'est une méthode qui fonctionne quel que soit le type de recrutement ? Je demande ça parce que tu peux avoir plein... Enfin, le recrutement, c'est super large. De toute façon, c'est aussi large que le nombre de fonctions que tu as dans l'entreprise, multiplié par le nombre d'entreprises. Tu as des postes très, très stratégiques, tu as des postes moins spécialisés. Du coup, est-ce que ta méthode... Enfin, je veux dire, je veux pas être péjoratif, mais... Est-ce que pour certains postes, c'est pas mieux d'utiliser une méthode standard, voilà, sans trop travailler sur le profilage, etc., etc. Ou est-ce que tu penses que c'est une méthode qui est universelle, qui va marcher de toute façon, quel que soit le type de poste?
Ça marche quel que soit le type de poste. Moi, personnellement, je ne recrute pas des niveaux ouvriers. Par contre, Val, elle, dans les entreprises où elle est, elle a ce niveau-là et elle utilise la même méthode. Donc, c'est-à-dire que ce qui va naturellement être modulé, certains postes, certaines fonctions sont beaucoup plus complexes que d'autres. Il y en a d'autres, elles sont assez simples, que je dirais. Donc, l'annonce, elle va être plus courte, je dirais. Mais par contre, on va passer par les mêmes stades, je dirais, dans l'annonce. Ça va être. Mais c'est vrai qu'elle va peut-être être plus courte. La manière dont on va le publier également va peut-être différer entre un type de poste par rapport à un autre. Par exemple, pour un client, ce qu'il y avait, c'est que un client de chez Val, par exemple, qu'elle l'accompagnait, elle faisait pas le recrutement pour eux, mais elle l'accompagnait dans pour qu'il le fasse lui-même. Et il dit, j'arrivais pas à recruter. Et donc, c'était des ouvriers pour aller faire la dératisation. Donc, c'est tout ce qui était nuisible. Et il me dit, j'ai mis à Pôle emploi, enfin, c'est le Forum en Belgique, j'ai mis dans différentes choses et tout ça, dans différents job boards, et ça ne fonctionne pas. Et elle lui dit, mais t'as pas essayé la pub Facebook? Parce que là, tu as un ciblage, etc. Et ben, il a eu ses quatre gars comme ça, quoi.
Génial.
Mais il avait l'annonce que l'on fait, nous, d'habitude. Par contre, après, dans l'entonnoir des interviews, il va y avoir des changements. On va peut-être avoir des choses qui sont plus pratico-pratiques, par exemple, où ça va être qu'un truc pratico-pratique, et en même temps, on va pouvoir aller regarder certaines attitudes. Voilà, c'est ça. Ou alors, dans certains cas, ben, tu vas pas faire des interviews, tu vas dire, ben, tu fais, je sais pas moi, une demi-journée d'essai, etc., quoi. Donc, on va moduler cette chose-là, si tu veux. Mais sinon, les différentes phases, oui, elles restent les mêmes pour chaque profil.
Ok, j'ai un copain qui avait utilisé, tu sais, le Bon Coin, pour recruter, et il me dit ça a super bien marché. Effectivement, ce qui a bien marché, c'est qu'il a eu plein de réponses, mais comme il n'avait pas ta méthode en taux noir, il a passé, bon, ça c'est bien fini, il a trouvé la bonne personne, mais il a eu un taux de déchets énorme parce que justement, il n'avait pas profilé. En fait, le principe de s'adapter au candidat, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les outils que tu utilises? Tu m'avais dit que tu utilises une carte de, je sais plus comment t'appelais ça, on en a parlé en off, pour faire correspondre le tempérament du recruteur et de la personne recrutée, ou je te dis une bêtise?
Ça ne me dit rien, ça, comme
une
ça.
Une carte
d'empathie. Ah oui, tout à fait. Donc, oui. Donc, quand on veut vraiment se mettre dans les chaussures du candidat, parce que, ben, soit on ne connaît pas ce métier-là, soit alors parce que ce sont des jeunes que l'on veut engager et nous, on est plutôt dans la quarantaine, cinquantaine et tout ça, et on aimerait bien regarder, ou alors parce qu'on n'a pas de candidat, on aimerait bien analyser, on fait une carte d'empathie. Donc, la carte d'empathie, c'est un outil qu'on utilise en marketing. Donc c'est une carte où on va mettre. Donc on doit choisir la thématique. Et donc c'est par exemple, je ne sais pas moi, les jeunes quand ils regardent les annonces. Donc c'est assez spécifique. Ou les, je ne sais pas moi, un certain type de poste. Par exemple, chez toi, les commerciaux, à l'heure actuelle, les commerciaux, je sais pas moi, je sais pas si dans le nord de la France, ça doit être quelque chose de spécifique, j'en sais rien, mais on essaye de spécifier finalement le public qu'on veut avec à quelles questions est-ce qu'on veut répondre. Et donc après, on va se demander. Et donc vous pouvez trouver hein, sur Internet, carte d'empathie, c'est un truc visuel. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent sans oser le dire? Qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux? Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils entendent également? Donc, on va aller vers les différents sens, finalement, de la personne. Et donc, ça peut être ce qu'ils pensent, c'est ah, ben, de toute façon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, par exemple. J'en sais rien, quoi. Tu vois, c'est oh, de toute façon, ils veulent tout, mais ils ne savent pas payer. Par exemple, c'est tout des choses comme ça qu'ils peuvent penser. Ce qu'ils voient, par exemple, c'est ah oui, il y a quand même pas mal d'annonces pour mon secteur quand ils regardent sur un job board, par exemple. Et donc voilà. Et donc on va commencer à mettre tous des post-it. Alors comme ça, de prime abord, on se dit mais en quoi ça va nous aider? Mais c'est pour pouvoir prendre du recul finalement et de se mettre vraiment dans les chaussures. Et donc les deux dernières questions que l'on va poser, c'est quoi leur crainte et c'est quoi leur critère de succès? Et donc on va mettre tout ça pour pouvoir soit confirmer, soit infirmer, soit voir un autre angle d'attaque qu'on n'avait pas vu quoi finalement. Pour
Super
pouvoir
intéressant.
se dire, mais parce que des fois avec ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il voit? Ah mais où est-ce qu'il voit ça finalement? Ah mais c'est là-bas, c'est dans tel truc. Ah mais j'ai pas mis mon annonce dans tel, je ne sais pas moi, dans tel secteur, etc. Donc ça va nous donner également des indications et en tous les cas, ça va faire prendre du recul et de pouvoir voir. Et alors moi, j'utilise vraiment deux post-it différents. Un post-it d'une couleur, c'est je suis sûre parce que je l'ai déjà entendu, etc. Et l'autre où c'est sur mes suppositions. Quand c'est des suppositions, il faut que j'aille vérifier sur le terrain.
Ok, super.
Ça va?
Vraiment intéressant.
Oui.
Ok.
Et donc ici,
Ouais.
j'aimerais ajouter par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'on utilise tous les types de profils, pour tous les types de profils? Donc j'ai parlé de plutôt ouvriers, puis bon, il
Ouais.
y a tous ceux qui sont sans des postes de gestion, je veux dire sans gestion d'équipe, et puis on a tous ceux qui sont avec de la gestion d'équipe, des postes stratégiques dans des comités de direction, des bras droits, des choses comme ça. Et donc là par contre, ce que je vais aller, quand on commence à avoir de la gestion d'équipe, d'un profil qui est plus stratégique, j'ai utilisé un outil que toi tu utilises aussi, c'est le disque. Et
Oui,
donc,
bien
il
sûr.
passe un test pour pouvoir avoir une photo en instantané. Ce n'est pas l'instantané qui va m'intéresser, c'est le débriefing que je vais avoir avec le candidat.
Eh oui, super. Ouais, c'est vraiment intéressant ça, ce que tu viens de dire. Oui, il y a le disque, mais il y a aussi la discussion que ça va générer avec le candidat qui est intéressante.
Oui, tout
Savoir
à fait.
déjà s'il avait identifié son profil, ce qui l'étonne, etc., etc. Ouais, super intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais aussi, je suis complètement aussi d'accord avec toi quand tu dis on utilise la même méthode, alors pas exactement avec les mêmes exercices ou les mêmes étapes ou la même emphase sur certaines étapes, ni la même personne qui recrute ou qui recrute pas, quel que soit le poste dans l'entreprise, parce qu'effectivement, moi, bon voilà, moi c'est des PME, donc j'ai moins de mal à le dire. Peut-être que si je gérais un très grand groupe, mais le type que tu rentres dans l'équipe et qui va travailler en équipe avec les ouvriers, qui va être managé par un chef d'équipe, etc., etc., il est aussi important que les autres. Donc vraiment, moi je pense que voilà, il y a pas de différenciation à faire. Je suis complètement d'accord avec toi.
Oui,
De
et
moins en moins, les postes sont standards dans les entreprises, de toute façon.
oui. Et alors, j'ai une deuxième chose aussi à ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que je fais le parallèle avec le marketing. Dans le marketing, que tu sois n'importe quelle couche sociale ou n'importe quel métier, etc., ben, quand tu achètes quelque chose, tu es attiré d'abord par quelque chose par une photo, une phrase qui t'attire, etc. Mais après, tu vas commencer à lire de plus en plus de choses. Parce que j'ai eu une certaine réaction comme ça quand je donnais ma conférence. Je disais, oui, mais les ouvriers, ça ne lit pas, etc. Quoi, il leur faut deux, trois trucs, etc. Ah bon? Et quand ils achètent quelque chose, ils ne lisent pas ce qui les intéresse, etc. Et donc, c'est toujours la manière dont j'amène les choses et les gens vont commencer à lire de plus en plus. Voilà.
C'est marrant, ça me fait penser, c'est une digression hein, par rapport au sujet, mais ça me fait penser aussi au management. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, mais les personnes qui écoutent ton podcast et qui prennent tes formations, c'est plutôt des grands dirigeants ou des managers intermédiaires, etc. Bah, je dis, bah, pourquoi le management? Ah bah parce que c'est pas pareil. Je veux dire, quand tu manages une équipe, enfin une entreprise de 4000 personnes et quand tu manages un salon de coiffure, tu peux pas. C'est pas la même chose. Ah bon?
Ah
Bah, je dis
bon?
pourtant.
Je ne savais pas,
Pourtant,
moi.
c'est toujours, tu manages environ 5 personnes
Oui, tout à fait.
ou 8 personnes maximum. Alors après, effectivement, tu manages des managers, mais en réalité, les outils que tu utilises et la manière de manager, elle est strictement la même. C'est-à-dire que la méthode est la même. Et d'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il dirige une entreprise de 4000 salariés, en général, si tu regardes l'organigramme ou la manière de gérer de cette personne, si elle est bien organisée, en fait, elle va manager toujours une équipe de 5 personnes.
C'est ça.
Qui elles-mêmes vont manager des équipes de
C'est
5,
ça.
etc., etc. Donc,
C'est ce que
c'est.
j'explique parce que moi j'ai travaillé dans des grands groupes avant de créer mon propre métier finalement. Et je leur disais, mais tu sais, dans une multinationale, on est plein de petites PME.
Mais oui, ce
Mais
serait
c'est vrai qu'on
l'idéal.
est sous le même chapeau, quoi. Donc voilà. Et donc, mais c'est plein de petites PME qui se répondent. Et alors, ce qu'on me disait aussi, ah oui, mais toi, tu as travaillé dans des grands groupes, ça devait être vachement structuré. Ah, tu peux pas t'imaginer comme c'était le bordel. Je fais donc
Non, non,
voilà.
non.
Et donc voilà.
Et
Donc c'est, il y a pas de, il y a pas, il y a pas. C'est pas parce que je suis petit que je suis familial. C'est pas parce que je suis grand que je suis processé, quoi, par exemple.
non,
C'est
non.
voilà.
Bah écoute, Karine, c'était hyper intéressant. Ce qu'on peut rappeler aussi, je dirais en guise de conclusion, c'est que mieux vous recrutez, mieux vous managerez. Hein. La
Oui.
première, bah, moi je dis souvent. Même avant le management, même avant tes techniques de management que tu connais, les personnes que tu fais rentrer dans ton équipe, c'est elles qui vont te permettre de bien manager parce que ce seront les bonnes personnes. Donc
C'est
vraiment,
ça.
le processus de recrutement, pardon, il est absolument crucial et primordial. Là où on se rejoint, c'est qu'il faut qu'il soit processé parce que sinon, c'est au petit bonheur la chance.
Oui.
Basé sur les comportements, en fait, je vois bien, il y a plein de choses qui nous rejoignent dans la manière de recruter, hein. Toi, je trouve que tu as vachement creusé, c'est vraiment intéressant la partie le faire comme du marketing, je trouve
Oui.
ça absolument génial. D'ailleurs, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec, zut, son nom m'échappe, c'est pas bien, un monsieur, alors il est du Canada, il a écrit un bouquin sur la culture d'entreprise. Et je crois que c'est moi qui avais inventé le terme, mais en fait, non. Tu vois, quelquefois, tu as parlé de quelqu'un. Et il parle de l'expérience employée. Tu
Ah
vois,
oui.
comme en marketing, on parle de l'expérience client. Et il dit que bah, on fait plein de bouquins sur comment faire en sorte que nos clients soient le mieux, vivent la meilleure expérience possible, etc. On accorde une importance énorme dans nos sociétés à ça. Et puis, par contre, l'expérience employée, on l'oublie un petit peu. Et pendant tout l'épisode, il fait des parallèles comme ça, et je trouve ça super intéressant, parce qu'effectivement, c'est ça qui compte. Tout à l'heure, quand je disais, ben, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'entreprise puis qui ressortent immédiatement, c'est certainement qu'ils ont une très bonne communication à l'extérieur sur les valeurs de la boîte, certainement que ces valeurs, elles sont reprises dans le recrutement, ce qui est très très bien. Par contre, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils découvrent, au stupeur, qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les valeurs qui sont défendus, qui ont été défendus, qui sont défendus dans le marketing, qui ont été défendus ou présentés dans le recrutement. Et ça, vous pouvez pas faire pire. Il
Non,
faut que ce soit
oui.
aligné, sinon ça marche pas.
C'est totalement ça. On travaille l'expérience candidat. Pour nous, c'est hyper important, cette expérience candidat. Ça va être, allez, c'est même crucial, quoi. Est-ce que tu as, par exemple, quand à un moment donné, ben, c'est l'entreprise qui fait l'entretien, qu'est-ce que tu lui as dit à la fin? Est-ce que tu lui as dit l'étape suivante, etc., quoi. Donc, et s'il n'a pas fait, on le fait, etc., quoi. Parce que c'est important de garder ce relationnel-là. Oui, tout à fait.
Ben, en fait, cette expérience candidat, c'est l'événement fondateur de la relation entre l'entreprise et la recrue. Et
Oui, tout à fait.
si déjà on se plante là, la
Oui.
suite,
Et moi,
voilà,
je parle
on
d'effet
démarre mal.
Bifidus. Je sais pas si tu te rappelles de la pub où c'était vous faites du bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et ben moi,
Oui.
j'utilise ça toujours. Je dis, ben, ton processus de recrutement, ton candidat, s'il voit qu'il n'est pas tenu au courant, qu'au bout d'un mois, il n'a pas de rappel, etc., il va se dire, oh là, qu'est-ce que ça doit être à l'intérieur? Et donc, ton processus de management, il va se refléter dans ton processus de recrutement également. Voilà.
Ah, j'adore l'effet Bifidus.
Oui, l'effet
Super.
Bifidus, j'ai toujours adoré cette
Eh bien,
comparaison.
retenez bien ça, et puis tout le contraire. On conclut là-dessus. Et puis, Karine, je voulais te dire que j'avais beaucoup apprécié notre échange.
Ah, j'ai adoré, moi aussi, oui.
Je trouve qu'on se rejoint sur pas
Oui.
mal de valeurs, et je pense vraiment que ton approche, elle est très originale. Je l'ai pas rencontrée, hein, encore, cette approche, et je la trouve vraiment, vraiment intéressante.
Merci.
Et voilà, donc merci pour l'échange, et puis
Avec plaisir.
certainement, à très bientôt.
À très bientôt. Voilà. Au
Ciao.
revoir.
Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré. Ça a changé ma manière de voir les recrutements. Et je t'ai promis deux bonus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux bonus? Le premier, c'est le replay d'un live qui a eu lieu dans le ciel. Le ciel, c'est le cercle des entrepreneurs libérés. C'est le cercle des entrepreneurs que j'ai créé. Et dans ce cercle, je fais venir les meilleurs experts. Et donc, Karine est venue. Elle a fait un live où elle explique toute sa méthode du marketing du recrutement, avec des exemples. C'est ce que je te propose. Donc, premier bonus. Le deuxième bonus, c'est sa méthode qu'elle a nommée STAR, STA2R, qui vont te permettre d'améliorer fortement tes entretiens de recrutement. Donc, au programme, on aura recrutement et marketing. C'est ce qui va te permettre de revisiter ta pratique et de maximiser les chances d'attirer les bons candidats. On va voir comment copywriter une annonce. Ça sert à faire postuler les bons candidats et à repousser les mauvais candidats. On en a parlé pendant le podcast. On va voir le processus d'entretien. On va le revoir pour qu'il soit orienté expérience candidat. On va repackager le package salarial, c'est-à-dire qu'on va rendre les choses plus claires et plus attractives. Et puis, on va parler de l'intégration du nouveau salarié. À quoi ça sert de réussir l'intégration? Ça sert à ce que ce salarié il atteigne son potentiel maximal dans le temps minimal. Donc ça, c'est le programme des deux bonus. Comment on accède aux deux bonus? Si tu es déjà en possession de la formation recruteur d'élite, tu n'as rien à faire, juste à te rendre dans ton espace de formation. Dans la formation recruteur d'élite, tu vas trouver les deux bonus. Si tu n'as pas notre méthode recruteur d'élite, tu as actuellement une promotion sur cette formation qui intégrera pendant cette semaine, les deux bonus dont je t'ai parlé, c'est le moment de s'y inscrire. Il te suffit de suivre le lien en descriptif. Tu auras le droit à une réduction sur la formation et aux deux bonus. Je te souhaite une excellente semaine. Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message, et puis en plus, évidemment, ça nous fait hyper plaisir. Donc, continuez, si ce n'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir, et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup.